Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Loin de l'image de propagande habituelle véhiculée par les autorités kurdes irakiennes, qui montrent des soldats entraînés, disciplinés et très bien équipés, nombre de peshmergas sont en réalité de simples civils mobilisés quelques jours par mois, qui viennent au front avec leur propre voiture et doivent acheter eux-mêmes leurs armes et leurs munitions. Cantonnés la plupart du temps dans des bastions d'observation, ils sont aussi utilisés pour des missions très dangereuses, comme le déminage par exemple. Des soldats low cost, en quelque sorte, comme le montre le documentaire de deux jeunes cinéastes qu'Orient Hebdo a rencontrés. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Babou, Bilger Moudame, Rasti, Kazel Chito Askeri.
Bonjour Charlie Duplan.
Bonjour.
Bonjour Thomas Loubière.
Bonjour.
Vous êtes journaliste reporter tous les deux, vous êtes co-auteur de Peshmerga, soldats de misère. C'est un documentaire de 26 minutes diffusé sur le site d'information spicy.com. Alors rappelons ce que sont les Peshmerga, Charlie.
Les Peshmerga, ce sont ce qu'on appelle les soldats kurdes irakiens, ceux qui dépendent de la province autonome du Kurdistan irakien.
Uniquement eux, ce ne sont pas ceux qui combattent par exemple en Syrie?
Alors non, en Syrie, c'est majoritairement des Kurdes syriens, qu'on appelle les YPG et les YPG pour les femmes. Il y a aussi des Peshmerga syriens aussi, mais alors là on rentre dans des considérations assez compliquées, mais communément ce qu'on appelle les Peshmerga, aujourd'hui sont les soldats kurdes irakiens.
Alors pourquoi vous êtes-vous intéressé spécifiquement à eux?
Tout d'abord, couvrir le Kurdistan irakien, moi je suis journaliste, je travaille aussi souvent avec mon camarade Thomas. Moi je m'étais rendu au Kurdistan irakien pour plusieurs publications, pour Libération, pour Le Point et d'autres. Donc j'avais été plusieurs fois sur le terrain et la première chose qu'on remarque là-bas en tant que Français, parisien en l'occurrence, ce sont les Peshmerga, c'est des hommes en armes dans la rue. Et au-delà de ça, ils ont une importance essentielle dans la société kurde, mythique, depuis toujours, puisque historiquement, ils avaient contribué à la libération du Kurdistan irakien contre Saddam Hussein. Et aujourd'hui, ils combattent l'État islamique. Et donc, quand on arrive dans la capitale kurde irakienne, à Erbil, il y a des affiches des Peshmerga qui les encouragent. Ils tiennent des checkpoints aux sorties de la ville, ils font des checkpoints volants. Donc, il y a des hommes en armes dans la rue. Donc, c'est la première chose qu'on remarque.
Alors, dans votre reportage, vous avez choisi de suivre quelques soldats, par exemple Abdelmalek. Manifestement, ce n'est pas un soldat de métier, Thomas Loubière.
Non, c'est toute la particularité du Peshmerga au Kurdistan irakien, c'est qu'ils ont une forme de double vie, c'est-à-dire que on pourrait dire qu'en un mois, ils vont passer 15 jours sur le front et 15 autres jours à avoir une vie civile, à avoir d'autres travails. Certains sont chauffeurs de taxi, d'autres sont éboueurs. Et Abdelkhalek, justement, lui, est réparateur de voitures. C'est-à-dire qu'en fait, son solde, son salaire de Peshmerga, parce qu'il y a un ministère des Peshmerga, c'est une armée constituée, ne suffit pas pour avoir une vie décente. Donc, ce sont des individus qui jonglent en permanence entre la vie civile et leur statut de soldat. Ils ont les deux casquettes.
Et ça, vous l'avez vu chez lui, puisque vous avez filmé dans sa maison.
Exactement, c'était tout l'enjeu, c'était de les filmer à la fois sur le front, quand ils sont soldats, et également dans leur vie quotidienne, quand ils sont avec leur famille, au travail, quand ils sont pères de famille, quand ils sont époux. C'était de filmer un peu les deux côtés de la guerre, à la fois le front, ce qu'on voit habituellement, ce qui est très médiatisé, ce qui est saillant quand on parle de la guerre, et puis tous les coulisses de la guerre, c'est-à-dire que ces hommes ne sont pas que des soldats, ils sont aussi, en l'occurrence, des travailleurs pauvres qui sont obligés, pour survivre et pour faire survivre leur famille, de gagner de l'argent en accumulant tout un tas de petits boulots qui leur permet de subvenir à leurs besoins.
Alors justement, Charlie Duplan, quel métier font-ils ces Peshmerga? On les imagine faisant des métiers extraordinaires, semble-t-il, ce n'est pas le cas.
Mais non, puisqu'on se rend compte qu'au final, ceux qui font la guerre, comme dans beaucoup d'autres endroits sur Terre, dans tous les conflits, ce sont les pauvres. Donc nos Peshmerga, ceux qu'on a suivis, sont, comme vient de le dire Thomas, mécanos dans leur jardin, chez eux, mais il y en a aussi un autre, son frère, Jabbar, qui travaille dans une décharge à ciel ouvert gigantesque sur la route de Mossoul à quelques kilomètres d'Erbil, et puis un autre qui est agriculteur, enfin qui a son lopin de terre et qui essaye de joindre les deux bouts en travaillant ses petits légumes chez lui quand il n'est pas sur le front, quand il n'est pas démineur.
Alors ça, c'est une image qui est incroyable, parce que l'image que l'on a en Occident des Peshmerga, c'est pas celle-là, c'est celle qui est donnée notamment à travers des vidéos ou même certaines chansons à succès, hein, avec des gens qui défilent correctement avec tout l'attirail militaire. Là, on n'est pas là-dedans.
C'est ça qui nous intéressait, c'était de montrer le quotidien de ces soldats loin de l'image romantique de la guerre, donc loin des coups de feu qu'on voit systématiquement, ce qui est important aussi évidemment, parce qu'il faut montrer ce qui se passe, mais aussi d'essayer de déconstruire en quelque sorte cette image qu'on a peut-être des combattants mythiques, bien armés. Non, c'est pas ça, c'est des gens qui achètent eux-mêmes leurs armes, qui se débrouillent tant bien que mal pour aller sur le front dans leur vieille voiture toute pourrie et qui récupèrent de l'argent en faisant toutes sortes de petits boulots. C'est de la débrouille, c'est vraiment le système D en permanence. Et donc on voulait aussi s'écarter de l'image que certains observateurs peuvent donner à voir en rappelant que voilà, la guerre est faite par des petites gens la plupart du temps.
Alors justement, que font-ils ces Peshmerga lorsqu'ils sont au front, Thomas Laubière?
Leur objectif, c'est de lutter contre Daesh et c'est également de protéger le Kurdistan irakien. C'est-à-dire que c'est une guerre de position.
D'ailleurs, on les voit parfois jouer aux billes parce qu'ils attendent. Ils sont dans des campements et ils attendent.
Alors là, ça prolonge justement le côté un peu mythique, effectivement, du combattant qu'on a l'impression de voir toujours sur le front, arme à la main, en mouvement. Alors que là, en l'occurrence, en fait, c'est une guerre de position assez stable. Une grande partie du temps du combattant, c'est de l'attente, c'est éplucher les patates, voilà, organiser une activité avec les amis, c'est surveiller tant bien que mal, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes, et effectivement c'est pour ça qu'on a cette scène où ils jouent aux billes de manière un peu débonnaire, parce que c'est le quotidien de ces combattants qui attendent sur les lignes de front.
Mais on les emploie aussi à des activités qui sont parfois dangereuses.
Oui. Notamment comme effectivement Ali, notre troisième personnage ou un des trois personnages qu'on filme en train de... Il fait partie d'une unité de déminage, parce qu'il faut savoir que Daesh mine énormément de villes ou de territoires qu'ils ont contrôlés. Donc pour les Peshmerga et pour l'armée irakienne, c'est très difficile. Il faut nettoyer les territoires qui sont reconquis parce qu'il faut déminer tout ce terrain-là. Et c'est une des activités des Peshmerga. Et c'est vrai que ce qu'on voit dans la séquence de notre reportage, c'est que effectivement ils le font avec les moyens du bord, de manière plus ou moins... Enfin, en respectant quelques consignes de sécurité, mais ce qui nous a frappé, c'est que c'est vrai qu'il y a un côté... C'est un peu paradoxal, parce que c'est des situations extrêmement risquées, les mines peuvent exploser à tout moment, et en même temps, il y a une espèce de culture de la guerre, de socialisation de la guerre, qui fait que le Peshmerga, plus ou moins entraîné, plus ou moins spécialisé, va déminer un peu comme ça, comme on le ferait, je sais pas, un dimanche matin, de manière sans stress particulier, sans consigne de sécurité apparente. C'est très déroutant à observer, quoi.
Et les femmes, où sont-elles? On a l'image de combattantes féminines, on nous parle même de combattantes qui occupent des postes à haute responsabilité. En avez-vous vu?
Alors, il y a souvent une confusion qui est effectuée avec les Kurdes lorsqu'on parle des femmes combattantes. C'est-à-dire que pour les YPG, les Kurdes syriens qui ont des bataillons entiers de femmes qui sont appelés les YPG, voilà, là ça représente 40%, les femmes représentent 40% des forces armées à peu près. Au Kurdistan irakien, on est dans une société qui est patriarcale, qui est extrêmement conservatrice, où les femmes ne sont pas postées sur des points du front qui seraient considérés comme vraiment stratégiques. C'est-à-dire que c'est un peu utilisé comme les femmes sont sorties, si je peux me permettre cette expression, pour montrer aux médias occidentaux aussi, c'est stratégique pour montrer aux médias occidentaux, pour montrer aux observateurs à quel point les Kurdes sont ouverts, sont attentifs à la condition féminine, alors que en réalité, les femmes combattantes kurdes irakiennes ne représentent qu'une infime minorité dans cette partie-là du Kurdistan.
Alors les Peshmerga, on a bien compris, ce sont des soldats qui doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont finalement. Ils vont au front en voiture, avec leur propre voiture, ils s'équipent eux-mêmes. On voit même dans votre reportage quelqu'un qui achète ses balles que leur fournit l'État, en tout cas la région du Kurdistan irakien, à ces soldats.
Bah, en fait, il faut bien distinguer. C'est-à-dire que les Peshmerga, bon, c'est difficile. Ça représente environ 100 000 hommes. C'est difficile d'avoir un chiffre exact. Mais il y a une inégalité interne, on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a des unités spéciales qui sont bien équipées, bien formées, qui sont en avant-poste et qui sont, des soldats qu'on a, comme on a l'habitude de les voir, comme en France, par exemple.
Professionnels.
Qui sont professionnels. Et puis, il y a toute une partie des Peshmerga, une majorité, on peut dire, qui sont des soldats de base qui, effectivement, doivent acheter eux-mêmes leur équipement, doivent subvenir à leurs besoins de soldats, ce qui est assez paradoxal. Donc il y a une vraie différence, certains, d'autant plus que ce qui rajoute au paradoxe, c'est-à-dire que les Kurdes sont soutenus par une coalition internationale qui est l'idée par les États-Unis, par la France et d'autres pays occidentaux qui fournit de l'aide, de l'armement, de l'aide financière aux Peshmerga. Mais on voit qu'elle est, c'est-à-dire la question c'est à quel point et comment est redistribuée cette aide. Et ce que nous on a constaté sur place, c'est qu'elle n'est pas redistribuée de manière égalitaire entre les différents Peshmerga. Et le soldat de base ne voit pas cette aide. En fait, il ne la voit jamais arriver puisque comme on le disait tout à l'heure, il va sur le front en stop, il achète ses munitions au marché, donc il ne voit jamais cette aide qui est réservée plutôt aux Peshmerga de l'élite, entre guillemets.
Merci Charlie Duplan et Thomas Loubière, co-auteurs du documentaire Peshmerga, soldats de misère, à regarder sur le site d'information spicy.com.
Merci.
Merci beaucoup.
Kurdum, Bray Shahidum, براكم شهيدا بابم بيشمرغا قديم بو استاس برا بيشمرغا بغوزم بيشمرغا بو دامنيش بيشمرغا بيشمرغا
Écrire orient.hebdo@rfi.fr.
Nous retrouvons maintenant dans Orient Hebdo Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors nous lisons la presse de la semaine. On commence avec vous Alexandre et ce bouleversement dans l'ordre de succession au trône en Arabie Saoudite.
Oui, tout à fait, puisque Mohammed bin Salman est passé de vice-prince héritier à prince héritier du royaume wahhabite. Alors celui qui était déjà l'homme fort de l'Arabie Saoudite a encore gagné en puissance, d'autant plus que le roi Salman, son père, a 90 ans passés et souffre de nombreux problèmes de santé, rappelle un analyste. Une vraie révolution dans le régime saoudien puisque pour la première fois depuis des décennies, celui qui pourrait bientôt accéder au pouvoir n'a pas 40 ans. Alors la presse saoudienne ne tarit pas en louanges pour le nouveau prince héritier, présenté comme un jeune moderniste qui va réduire l'influence de l'islam radical sur le pouvoir et la société. Alors par contre, des journaux proches du Qatar vont jusqu'à estimer que c'est en fait un coup d'État et de souligner les problèmes économiques et démographiques de l'Arabie, sans oublier les interventions militaires comme c'est le cas au Yémen. Alors des journaux qui publient la mise en garde faite par des responsables iraniens à celui qui reste le ministre de la Défense d'Arabie.
Michel Paul, vous relevez dans vos journaux plusieurs questions de sécurité.
Oui, Eric, la porte de Damas, un des 7 points de passage de la vieille ville de Jérusalem, est devenue un symbole de l'intifada, de la vague de violence. Et c'est là qu'a eu lieu le plus grand nombre d'incidents, le plus souvent des attaques au couteau contre des bérets verts israéliens. Et la semaine dernière, Hadass Malka, une jeune garde frontière, a été tué à cet endroit, et cela a suscité un grand émoi. Le quotidien Israel Hayom publie dans son édition du week-end des détails sur un projet des forces de sécurité israéliennes. Il s'agit, selon le journal, de transformer le secteur en véritable forteresse. Tout d'abord, les autorités s'apprêteraient à raser l'esplanade de toutes les constructions qui s'y trouvent, kiosques et stands de vente, des caméras équipées de systèmes de reconnaissance de visage, des magnétomètres, des bétonnades. Le ministre de la Sécurité intérieure l'affirme au journal, la porte de Damas ne sera plus reconnaissable. À retenir également, cette fois dans Yedioth Acharonot, une déclaration du chef des renseignements militaires de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi tranche, le Hezbollah, affirme-t-il, est autrement plus dangereux que le Hamas. La menace à la frontière nord est bien plus grave que celle à la bande de Gaza. Et dans Haaretz, on reparle de l'opération bordure de protection. 3 ans après, souligne le journal, Tsahal hésite encore enquêter sur le fiasco du premier vendredi de l'opération dans la zone de Rafah.
Également cette semaine, Michel, un face-à-face dans Maariv.
Oui, 2 hommes qui font les titres et ils sont à l'opposé du point de vue politique. À droite, le président israélien Reuven Rivlin, la tirade de Rivlin, titre Maariv. Le président israélien s'inquiète. Israël court à l'anarchie, estime-t-il. L'armée, la Cour suprême et le Parlement, la Knesset, ne sont pas à l'abri. Le phénomène de démocratisation que l'on peut retrouver dans les médias sociaux, poursuit le président, fait naître de nouvelles formes de démagogie. Et puis l'autre personnage, à gauche celui-là, c'est l'ancien Premier ministre Ehud Barak, qui proclame que Benjamin Netanyahou est prêt à mettre en danger le pays pour pouvoir rester en place. Réplique de l'entourage de l'actuel Premier ministre, on a l'impression d'entendre un disque rayé.
Alexandre, la crise du Qatar fait encore couler beaucoup d'encre cette semaine.
Oui, tout à fait. Et les journaux qatariens, financés par l'émirat gazier, tirent à boulet rouge sur l'Arabie Saoudite, les Émirats, Bahreïn et l'Égypte. Ils accusent ces pays d'imposer un blocus illégal au Qatar avec la fermeture des frontières terrestres et de leur espace aérien et maritime. Un blocus qui affecte le Qatar économiquement, socialement et même footballistiquement. Les journaux du Golfe soulignent en effet que la FIFA examine la possibilité de transférer ailleurs, la Coupe du Monde de football prévue en 2022 au Qatar. Il continue à multiplier les accusations contre le Qatar de soutien des mouvements extrémistes islamistes et notamment la confrérie des frères musulmans. Ils accusent aussi les médias qatariens et notamment la chaîne d'information Al Jazeera de chercher à déstabiliser plusieurs pays arabes par le biais de la propagande, une chaîne dont la fermeture est réclamée.
Et puis, la mendicité semble une activité lucrative durant le mois de Ramadan, Alexandre.
Oui, c'est un reportage et qui commence par le cas de ce directeur de banque qui reconnaît un mendiant assis devant une mosquée comme étant un de ses clients multimillionnaires. Alors, le reportage s'intéresse à ce qu'il appelle la mendicité organisée avec des chefs qui répartissent les zones de travail et se chargent de régler les problèmes avec les autorités en contrepartie d'une somme journalière payé par le mendiant. Il y a aussi les enfants qui sont loués aux mendiants par des parents de familles nombreuses, un phénomène qui explose durant le mois de Ramadan et auquel s'ajoutent des associations de bienfaisance, plus ou moins légales, qui profitent de la générosité des croyants durant le mois de jeûne.
Michel, plusieurs autres sujets dans la presse israélienne ont retenu votre attention.
Oui, tout d'abord, un conflit au sein de l'hôpital Hadassah de Jérusalem qui prend une dimension nationale. Les médecins du département d'oncologie pour enfants ont démissionné en bloc et c'est le sujet qui retient l'attention de tous les journaux cette semaine encore. Pas de solution en vue. On parle aussi beaucoup de malversations, des problèmes notamment pour la libération anticipée de l'ancien chef du gouvernement, Olmert. Mais il y a encore d'autres scandales du même acabit. Et puis à la une aussi, la canicule. Ici, on l'attend, Eric, pour la semaine prochaine.
Allez, pour conclure, Michel, votre photo de la semaine.
C'est la photo d'handicapés qui bloquent des carrefours en Israël. Ils réclament des aides plus substantielles.
Une image assez inhabituelle. Merci Michel, merci Alexandre. François Porcheron a réalisé cette nouvelle édition d'Orient Hebdo que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous évoquerons la Tunisie et ses trésors archéologiques à l'occasion de la sortie d'un numéro spécial de la revue Historia. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.